Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et le mets en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous avançons dans ces explications que donnent les Pères de l'Église sur le magnifique passage du chapitre 17 de Saint Matthieu, c'est la transfiguration de notre Seigneur. Donc nous en sommes sur le polycopier qui couvre les chapitres 16 à 20 de Saint Matthieu, nous en sommes à la page 10. Je vous rappelle le texte. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors nous prenons les explications au milieu de la page 10 du polycopier. Donc, je vous rappelle ce que j'ai déjà en partie expliqué, que la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa transfiguration, plus exactement, notre Seigneur Jésus-Christ dévoile sa divinité, ou une petite partie de sa divinité. On ne peut pas voir Dieu ici-bas sans mourir. Donc, il ne pouvait pas leur montrer complètement sa divinité. L'homme, si vous voulez, ici-bas, étant retenu par la chair, ne peut pas monter suffisamment haut, spirituellement parlant, pour voir Dieu, c'est impossible. Une comparaison toute simple que j'ai déjà en partie expliquée, je crois, c'est le soleil. On ne peut pas regarder le soleil en face. On se brûle les yeux. Pourquoi ? Parce que la lumière du soleil est trop forte pour la nature de nos yeux. On est obligé, lorsqu'on regarde le soleil, de mettre un vert teinté entre le soleil, la lumière du soleil et nos yeux, pour que justement nos yeux ne soient pas brûlés. C'est un peu la même chose avec Dieu. On ne peut pas voir Dieu tel qu'il est, comprendre sa divinité et même voir sa divinité ici-bas, c'est absolument impossible. Et donc notre Seigneur ne va que dévoiler qu'une toute petite partie de sa divinité. Alors certains pensent que c'est un miracle. C'est pas un miracle. Le miracle, il est pas là. Le miracle, il est dans le fait que notre Seigneur Jésus-Christ cachait constamment sa divinité. Il aurait dû, puisqu'il est Dieu, il aurait dû, je dirais, être comme avoir la luminosité du soleil et la blancheur de la neige tout le temps. Mais justement parce que les hommes à qui il parlait ne sont pas capables de voir sa divinité sans mourir, donc il cachait sa divinité sous son humanité. Voilà ce que disent les pères. Cette émanation de splendeur sur le corps du Christ semblait être un miracle pour les apôtres, car c'était une chose nouvelle et qu'ils en ignoraient la cause. Mais le Christ possédait cette gloire de son corps par un double droit. Celui de l'union apostolique et celui de l'union apostatique et celui du mérite. Qu'est-ce que c'est que l'union apostatique? C'est l'union, la divinité, l'humanité, dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. À cause de cette union apostatique, notre Seigneur Jésus-Christ, la personne du Christ, est véritablement Dieu. Donc il aurait dû rayonner cette divinité tout le temps. Il la cache. Notre Seigneur cache sa divinité. Au contraire, on voit très bien, après la Passion, il va au contraire, après sa résurrection, plus exactement, ou pendant sa résurrection, et après, il va au contraire manifester davantage sa divinité. Par exemple, pendant la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, les 3 ans de vie publique, on ne voit pas notre Seigneur Jésus-Christ passer à travers les murs. Pourtant, il aurait pu le faire parce qu'il est Dieu, il peut tout faire. Mais au contraire, après sa résurrection, on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît au milieu des disciples qui sont dans la chambre haute à Jérusalem. Il apparaît au milieu d'eux, il passe à travers les murs pour apparaître au milieu d'eux, ce qu'il ne faisait jamais avant la résurrection. Pour bien montrer que justement, après sa résurrection, il avait pris déjà un corps glorieux. Ayant pris un corps glorieux, il était libéré des exigences de la chair. Après la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait plus besoin de dormir, plus besoin de se nourrir comme nous. Par contre, avant, oui, dans son humanité. Donc, à cause de cette union hypostatique, notre Seigneur possédait la gloire de son corps, et aussi par le mérite. Pourquoi ? Parce que ses souffrances et ses travaux, par ses souffrances et ses travaux, il mérita cette gloire de son corps, et à sa résurrection, il l'a reçue à perpétuité. Les théologiens disent à passim, comme enseigne les théologiens. Donc certains ont pensé que le Christ avait toujours possédé cette gloire et ses dons dans son corps, mais qu'il n'était pas visible aux hommes à cause de l'infirmité de la vie humaine, comme la gloire du corps des bienheureux serait invisible aux yeux des mortels sans qu'un pouvoir spécial de vision leur soit donné. Dans le domaine naturel, on a une vision purement naturelle. Pour voir des choses au-dessus de la nature, il faut que notre vision naturelle reçoive de Dieu une possibilité, si vous voulez, un pouvoir de voir les choses au-dessus de la nature. Avec les yeux naturels, on ne peut pas voir les choses surnaturelles, c'est impossible. Donc pour pouvoir voir les choses surnaturelles, il faut que notre œil reçoive un pouvoir spécial qui élève le pouvoir naturel des yeux au-dessus justement de ce pouvoir naturel. Encore une fois, la surnature, la grâce ne détruit pas la nature. Alors, pourquoi le Christ fut-il transfiguré? Ça, c'est une question importante. Les pères de l'Église ont beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est à la page 10, ceux de Polycopier. Donc, pourquoi le Christ fut-il transfiguré? Le Christ fut transfiguré d'abord pour prouver aux apôtres sa divinité, afin que par le moyen de cette gloire et de cette lumière, donc qu'il va manifester au sommet du Tabor, mais par le témoignage d'Élie et de Moïse, qui avaient annoncé la venue du Messie, Élie comme prophète et Moïse comme législateur, qu'afin par ces moyens, si vous voulez, de la présence d'Élie et de Moïse, leur témoignage, le moyen de la gloire et de la lumière de la transfiguration, notre Seigneur puisse prouver sa divinité aux apôtres. Il leur dit, attention, n'oubliez pas, je suis Dieu. Et deuxièmement, pour prévenir les apôtres afin qu'ils ne perdent pas confiance quand ils le contempleraient cloué sur la croix. Ça, c'est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ sait qu'il va mourir sur la croix. Et qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va être arrêté, condamné à mort par les Juifs, les apôtres vont être scandalisés. Comment une telle chose est-elle possible? Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ était venu pour rétablir le royaume d'Israël, et voici qu'il a été pris par les Juifs, il a été crucifié, et il est mort. Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs, les pèlerins d'Emmaüs qui sont en train de discuter entre eux, il y a Saint-Luc et Cléophas, c'était le frère de Saint-Joseph, et bien tous les deux sont complètement découragés, on avait cru en lui, on avait mis tout notre espoir, toute notre espérance en ce Messie, et puis voilà qu'il est mort, c'est fini, tout est terminé. Littéralement, ils pensaient un peu, on s'est fait rouler, on s'est fait voir, on l'aime énormément, et puis voilà que finalement, malgré tout ce qu'on croyait, il est mort, c'est fini, c'est terminé, et passons la page, tournons la page. Eh bien, pour rendre confiance, pour aider les apôtres à ne pas perdre confiance quand ils le verraient brisé par les souffrances de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ leur montre sa divinité. Le problème, c'est que les apôtres vont oublier cette divinité. Ils vont oublier. De même que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit plusieurs fois, pas qu'une fois, mais plusieurs fois à ses apôtres, attention, je vais être condamné, je vais être couronné d'épines, je vais être vilipendé, je vais être crucifié, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. En leur annonçant qu'il allait être condamné, qu'il allait devoir porter sa croix, qu'il allait être écrabouillé par le poids de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ leur montre qu'il est homme. Ça, les apôtres le voyaient très bien. Mais en annonçant qu'il allait ressusciter des morts le troisième jour, notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa divinité. D'où cette phrase des pères, notre Seigneur fut transfiguré pour prévenir les apôtres afin qu'ils ne perdent pas confiance quand ils le contempleraient cloué sur la croix. Et c'est très important aussi pour nous que nous non plus, nous ne nous décourageons pas justement dans les difficultés. C'est très important. Ne jamais oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et surtout aujourd'hui, quand on voit l'écrabouillement littéralement de l'Église, quand on voit l'apostasie des nations, quand on voit l'apostasie de l'Église de Vatican II, on peut avoir la tentation justement d'oublier complètement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. D'oublier cette divinité de notre Seigneur. Et si on se rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, à ce moment-là, dans les périodes de passion, eh bien, on ne se décourage pas. Parce qu'on sait qu'à la fin de la passion, il va ressusciter d'entre les morts. Rappelez-vous la promesse de Notre-Dame aussi à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, pas maintenant. Beaucoup de catholiques se découragent parce que justement, ils attendent en quelque sorte une victoire de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas promis une victoire ici-bas, il a promis une victoire à la fin. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce qu'elle va se manifester? La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le monde, et sur la chair, et sur le démon, va se manifester à la fin des temps, lorsqu'il y aura la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va apparaître avec le signe de la croix, justement, avec les apôtres pour juger les vivants et les morts. Alors là, ça sera la manifestation de sa divinité, de sa puissance en tant que roi de rois, roi des nations. Mais tant qu'on n'est pas à ce temps de la fin des temps, de la fin du monde, eh bien, on ne va pas voir cette victoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est vrai qu'humainement parlant, il n'y a pas de solution. Quand les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, comment envisagez-vous un retour à une situation normale dans l'église? Je dis, j'envisage rien du tout. Est-ce que ce n'est pas mon pouvoir? Moi, je ne peux rien faire. Il n'y a que le bon Dieu qui peut remettre son église dans une situation normale. Et il le fera quand il le voudra, et s'il le veut, et peut-être qu'il ne le veut pas. Peut-être que le bon Dieu a décidé dans sa sagesse extraordinaire, sa sagesse divine, il a peut-être décidé que l'église allait être dans une situation d'éclipse, elle est éclipsée littéralement par le monde moderne, par l'église de Vatican II, l'église du monde, pendant peut-être des siècles. Qui sait? C'est déjà 60 ans que ça dure. Depuis les années 50, 50, 58. Bon, si ça fait presque 50 ans que ça dure, même 60 ans que ça dure, bien peut-être que le bon Dieu souhaite que ça dure plus longtemps, je ne sais pas. Et au moment où, humainement parlant, tout sera complètement pourri, complètement perdu, on y est presque. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, le bon Dieu va faire intervenir un instrument, va choisir un instrument comme il a choisi Sainte Jeanne d'Arc. Il choisira peut-être un autre instrument qui peut être vous ou moi pour rétablir justement la gloire de son Église. De toute façon, cette gloire de l'Église, elle sera rétablie à la fin des temps et au ciel. Ça, il ne faut jamais se décourager. Troisième raison pour laquelle le Christ fut transfiguré, nous disent les pères, pour indiquer de quelle manière il reviendra avec grande puissance et majesté pour juger le monde. Élie apparut également car il sera le précurseur du Christ au jugement final. Élie reviendra à la fin des temps pour se battre contre l'Antéchrist. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui se transfigure représente notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps qui vient avec les puissances. Qui vient avec toute la puissance de sa divinité, avec les apôtres, pour juger, faire le jugement général de tous les hommes. Quatrième raison, me disent les pères, le Christ fut transfiguré pour animer la foi, l'espérance, le courage et le zèle des apôtres et du reste des fidèles, pour qu'ils supportent toutes les croix par amour de l'Évangile, avec l'espoir d'obtenir une telle gloire à la résurrection. Saint Léon dit, le Seigneur fut transfiguré pour enlever le scandale de la croix du cœur des disciples. Quand les disciples virent notre Seigneur Jésus-Christ écrabouillé sur la croix, ils ont perdu la foi. On le voit très bien, ils sont tous sauvés comme des lapins. Et au contraire, quand ils voient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste en partie, une toute petite partie, par la transfiguration au sommet du Tabor, alors là, c'est le contraire, ils sont tout heureux. Ils ne demandent qu'une seule chose, c'est à rester. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si vous le voulez, faisons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie.
voyez, donc il ne faut pas oublier les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu, il est aussi homme. Le Messie que nous adorons, c'est un Messie souffrant. Un Messie souffrant qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Et comme homme, il doit souffrir. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Il a décidé de nous sauver sans souffrance. Le bon Dieu n'avait pas besoin de s'incarner. Il s'est incarné justement pour pouvoir souffrir. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui se transfigure au sommet du calvaire représente la transfiguration de l'âme qui monte vers le ciel, vers le paradis. Le plus petit au ciel aura un éclat et une gloire plus grand que le Christ montrait pendant sa transfiguration, car il adapta sa gloire aux faibles yeux et à l'état de mortel qui était celui des apôtres. Si les apôtres qui ont vu une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont déjà tombés, complètement paniqués littéralement, avec à la fois une crainte et à la fois une joie extraordinaire, alors qu'ils ont vu qu'une toute petite partie de l'éclat de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, imaginons ce que va être la gloire du ciel. Ceux qui seront irradiés par la gloire céleste compteront pour rien toutes les pompes et les vanités de ce monde. Saint François disait, la gloire que j'attends est telle que toutes les afflictions deviennent pour moi un délice. C'est Saint Pierre d'Alcantara, je crois, qui avait été apparu à Sainte Thérèse. Je crois que c'est lui qui avait dit « Oh, bienheureuse pénitence, qui m'a valu une telle récompense ?» Il est apparu, après être mort, il est apparu à Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole, rayonnant de la gloire du ciel en disant « Oh, bienheureuse pénitence, qui m'a valu une telle récompense ?» Parce que Saint Pierre d'Alcantara était un homme extrêmement pénitent, pénitentiel. Donc, anagogiquement, c'est-à-dire pour la fin des temps, le Christ voulait donner une représentation de la gloire de notre résurrection alors qu'il accordera nos corps à celui de sa gloire. Donc, c'est une image de la gloire de la résurrection. Le bon Dieu dit aux apôtres, voilà ce qui se passera après votre mort, si vous restez fidèles. Moralement parlant, tropologiquement parlant, Jésus voulait en premier lieu, donner une idée de la transfiguration d'une âme noircie par le péché en la lumière de grâce, par laquelle nous sommes devenus comme lui. Et cette transfiguration symbolise aussi la transfiguration d'une âme. Lorsque l'âme qui s'est vautrée dans le péché mortel, qui est dans le péché mortel, qui a perdu l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a perdu la lumière de la grâce en elle, se présente avec humilité au confessionnal, avoue ses péchés et reçoit l'absolution du prêtre, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a là une transfiguration réelle. L'âme est toute transfigurée et de toute noire qu'elle était, toute noircie par le péché, elle va se transformer, se glorifier par la lumière de grâce. Et la lumière de grâce prépare la lumière de gloire. Donc première étape c'est le péché, deuxième étape c'est la grâce, et la troisième étape, espérons-le, ce sera la gloire au ciel. Et c'est par cette grâce que nous devenons, que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. C'est pas par notre corps. Notre corps n'est pas créé à l'image de Dieu. C'est l'âme qui est créée à l'image de Dieu. Car notre transfiguration, c'est-à-dire le passage du péché à la grâce, notre transfiguration nous fera ressembler ou nous configurera au Christ. Car nous devrons être conformes au Christ en toute humilité, charité et obéissance. Devenant image vivante de la vie, de la sainteté du Christ, pensant, parlant et agissant avec la même piété, même gravité, même zèle que le Christ, afin que quiconque nous voit puisse penser qu'il contemple le Christ en nous. Il faut que les gens qui nous voient vivre, dans notre famille, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu dans lequel on vit, il faut que les gens de l'extérieur qui nous voient vivre puissent voir le Christ derrière nous. Rappelez-vous ce protestant, j'ai souvent cité cet exemple parce qu'il me semble très important, ce protestant qui va voir le Saint Curé d'Ars et ses amis lui demandent après l'Ars, qu'est-ce que t'as vu quoi ? Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. Imaginez que les gens autour de nous puissent voir ça. Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu derrière cet homme. J'ai vu Dieu derrière ce jeune homme qui agit. J'ai vu Dieu derrière cette jeune fille qui agit. J'ai vu Dieu derrière cet homme, par sa façon de travailler, sa façon de se comporter, son zèle professionnel, son honnêteté professionnelle. J'ai vu Dieu derrière cette maman par la façon dont elle éduque ses enfants. Je vois le bon Dieu derrière elle. Il faut que derrière tous les hommes catholiques, on puisse voir le bon Dieu. Derrière toutes les femmes catholiques, on puisse voir la très sainte Vierge Marie. Voilà ce qu'il faudrait faire. On en est loin. Pourquoi croyez-vous que le démon travaille tant justement pour éliminer complètement en nous la vision divine? C'est pour ça que le monde moderne se vautre littéralement dans la laideur. Dans la laideur. C'est très visible, par exemple, dans les arts. Pourquoi est-ce que tout est laid dans le monde moderne? Il n'y a plus rien de beau. J'ai trouvé de la belle musique dans le monde moderne, ça n'existe pas. Essayez de trouver une œuvre d'art moderne qui soit belle, ça n'existe pas. Essayez de trouver un beau tableau peint par un homme moderne, ça n'existe plus. Essayez de trouver une belle église faite par des hommes modernes, encore une fois, ça n'existe plus. Plus, sauf s'il copine une belle église romane du 11e ou du 12e siècle. Et là, c'est très important que nos catholiques, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, que les catholiques comprennent justement la nécessité qu'ils ont de refuser cette laideur du monde moderne. C'est pas parce que toutes les femmes modernes sont habillées comme les prostituées que ça veut dire que nos femmes catholiques doivent s'habiller de la même façon. Tout est laid. En vêtements modernes. Donc il faut réagir de ce côté-là. C'est ça que j'apprécie beaucoup que par exemple les hommes qui viennent à la messe ce dimanche fassent un effort justement pour manifester leur foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui va apparaître sur l'autel. Ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup justement que les hommes modernes qui viennent à la messe soient en chemise, cravate et veston pour justement marquer leur foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà souvent cité comme exemple, j'ai vu ça dans les pays, surtout des pays d'Afrique, et des gens qui vivaient dans la misère noire, mais qui, pour venir à la messe du dimanche, se mettaient tous sur leur 31, c'est l'unique paire de chaussures qu'ils avaient, c'était la chaussure pour la messe, et ça devait leur durer toute sa vie. Cette paire de chaussures devait durer pour toute leur vie. Vous voyez? Donc il faut réagir contre cette laideur du monde moderne. Le monde moderne n'est pas capable de faire des choses belles. Pourquoi? Parce que le démon qu'il suit est le prince de la laideur. Au contraire, essayez de trouver une église construite au début du Moyen-Âge, par exemple. Essayez de trouver une église construite au 11e siècle ou au 12e siècle qui soit laide. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Imaginez un architecte un peu fou qui commence au Moyen-Âge à construire une église qui soit laide. Mais cette église aurait immédiatement été rasée par les autorités, même les autorités civiles. Parce qu'à l'époque, ils avaient la foi. Et donc, une des caractéristiques du Moyen-Âge, c'est justement un équilibre parfait entre les formes, entre les couleurs. Et c'est ça la beauté. Il y avait de la beauté. Heureusement qu'en France, on n'a pas tout été détruit au niveau de l'architecture du Moyen-Âge pour des raisons touristiques, des raisons financières, c'est triste à dire, mais c'est la seule raison pour laquelle ces églises se sont maintenues. Regardez, par exemple, c'est tout un signe, regardez ce qu'a fait Brigitte Macron il n'y a pas longtemps, elle a voulu aménager la salle de réception de l'Élysée qui était belle avant, qui était avec toutes les ordres de la grande époque. Elle a tout cassé. Les photos qui ont été publiées montrent justement tout est cassé. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une interview qui disait que, à propos de Macron, notre triste chef d'État, Macron qui n'aime qu'une seule chose, c'était le béton. Ça, c'est typique. C'est typique. Les gens modernes ne peuvent plus apprécier la beauté. C'est pour ça que les jeunes qui n'ont pas la foi, qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, sont incapables d'apprécier la musique classique. Faites écouter un concerto de Vivaldi, par exemple, ou un concerto de Handel à une bande de gens modernes, de jeunes modernes qui sont dans le rap toute la journée. Ils vont regarder avec des yeux ronds, en disant, mais c'est quoi ce machin? Vous voyez? C'est pour ça qu'ils s'attachent à ces choses qui n'ont même plus de rythme, qui n'ont même plus de ligne mélodique, qui n'ont plus rien du tout. Le rap, c'est ça. Le rap, c'est quoi d'abord? C'est d'abord une absence totale de ligne mélodique. Vous voyez? Et donc une absence totale de beauté. Donc il faut réagir. Il faut réagir au niveau du beau pour demander à ce que nos jeunes gens, nos jeunes filles réapprennent à s'habiller avec beauté, à aimer la belle musique, à aimer le bel art. Que vos enfants dans vos maisons puissent voir des beaux tableaux, des belles copies des tableaux magnifiques du Moyen-Âge, même de la Renaissance, et des merveilles. L'école italienne, ou même après avec l'école hollandaise, et du nord de l'Europe, il y a des choses splendides. Vous voyez, quand on est devant un beau tableau de la Tour, par exemple, eh bien, on est porté vers le bon Dieu. Quand on écoute une messe de Palestrina, on est porté vers le bon Dieu. Quand vous écoutez les espèces de hurlements modernes, comment voulez-vous qu'on soit porté vers le bon Dieu, hein? C'est pas pour rien que dans ce festival de musique moderne qui a lieu près de Nantes, là, une fois par an, ils appellent ça Hellfest, la fête de l'enfer. La fête de l'enfer, c'est la fête du rock, mais c'est la fête de l'enfer. Ils ont bien compris d'où venait cette musique. Elle vient du démon, donc il faut réagir. Donc, en bas de la page 10 sur le polycopie, attention à ces choses-là, nous devons être conformes au Christ, devenir des vivantes images de la vie de la sainteté du Christ, parlant, agissant avec la même piété, la même gravité, le même zèle que le Christ. C'est lui notre modèle. Le Christ donne une représentation de la transfiguration par laquelle une âme passe du degré moindre de sainteté à un degré supérieur. La transfiguration, c'est le passage, par exemple, de la vie purgative à la vie illuminative et à la vie unitive. Quand le Christ, qui est déjà saint, fut transfiguré, cette transfiguration de l'âme est plus difficile, car les saints qui reposent déjà dans leur sainteté n'aspirent pas toujours à une sainteté plus élevée, alors que les pécheurs aspirent à la droiture. Donc, il y a une remarque intéressante des pères, voilà ce qu'ils disent à la page 11 sur le polycopier. Il est moins fréquent que quelqu'un soit transfiguré d'une moindre sainteté à une plus grande que du péché à la sainteté. Donc, il ne s'agit pas simplement de passer du péché à la sainteté. Péché à la sainteté, je dirais, c'est le passage de la vie dans le péché, la vie purgative. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La vie purgative, c'est qu'un point de passage. Il faut passer à la vie illuminative. Puis une fois qu'on a la vie illuminative, il ne faut pas s'arrêter là non plus. Il faut passer à la vie unitive. Donc, cela ne peut arriver, disent les pères, que sur la montagne, à côté du Christ, par de ferventes prières et méditations. L'esprit est alors illuminé par Dieu et attire comme par un tuyau de lumière céleste par laquelle il concevra une fraîche ardeur pour réformer ses voies, pour être transformé dans le Christ comme saint Paul le proclamait. Le monde est crucifié en moi, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et comme saint François, il aura l'impression des cinq blessures du Christ, non en son corps, mais en l'intimité de son âme. Donc, vous voyez, il faut que notre vie de catholique, être catholique, c'est pas simplement être catholique le dimanche de 10h à 11h30, hein. C'est facile d'être catholique le dimanche de 11h à 11h30. On est entre nous, c'est facile. Et le bon Dieu vous demande, et nous demande d'être catholique aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que le prêtre, par exemple, porte fièrement sa soutane et la garde tout le temps dans la journée. Il y en a pour prendre sa douche et pour dormir, point final. Justement parce que cette soutane oblige les gens qui le voient en soutane à penser au bon Dieu. Combien de fois, même notre monde complètement pourri dans lequel on est obligé de vivre, combien de fois je me fais arrêter dans la rue par les gens, des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, un homme, une femme qui me voit en soutane, ils viennent vers moi, ils me prennent la main simplement pour me serrer la main en disant « Merci pour la soutane, monsieur l'abbé. Merci pour la soutane. » Puis c'est tout, bizarrement. Ils s'en vont. Un autre point très important à la page 11, ça c'est un point clé sur l'histoire de la transfiguration, c'est la, le symbole de la transfiguration. Donc les pères expliquent, ça c'est splendide, les pères expliquent que cette transfiguration représente les transformations variées et merveilleuses du Verbe incarné, car le Christ a été transfiguré en fait 4 fois. Donc les pères parlent de 4 transfigurations. Bon, pas simplement de la transfiguration physique de notre Seigneur Jésus-Christ au sommet du Tabor, devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, mais il y a 4 représentations de cette transfiguration ailleurs. Voilà ce qu'ils disent dans l'incarnation, sur la croix, par la résurrection et dans la Sainte Eucharistie. Ça, c'est splendide. Voyez un petit peu ça. Donc, cette transfiguration représente les transformations variées et merveilleuses du Verbe incarné, car le Christ a été transfiguré 4 fois. Première transfiguration du Christ. Dans son incarnation, quand le Verbe se fit chair, brillant en elle comme une lumière dans une lanterne. Donc la lanterne, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière qui brille à l'intérieur de la lanterne, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça représente la première transfiguration, qui est la transfiguration de l'incarnation. L'union dans la personne de l'enfant Jésus, tout petit dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, et par cette incarnation, justement, notre Seigneur Jésus-Christ est déjà transfiguré, il y a une transformation déjà en lui, dans le sens que il était Dieu, et tout en restant Dieu, il devient à la fois homme, quand le Verbe se fait chair. Deuxièmement, sur la croix. Sur la croix, deuxième transfiguration, sur laquelle il fut, sur la croix sur laquelle il fut tellement déformé avec les coups, les clous et les crachats, ce qui fait dire à Isaïe, il n'a plus ni forme, ni charme. Et comme, quand nous l'avons vu, il n'avait plus aucune beauté. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va devenir comme un esclave. Il va devenir comme, on pourrait dire presque dans la crucifixion elle-même, il cache sa divinité. Cacher complètement sa divinité, bien sûr, mais aussi cacher son humanité. On voit, il va devenir, je crois que c'est le psaume 21, il va devenir comme un ver de terre. Un ver de terre qui est plus rien. On marche dessus, on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est ça qui est devenu notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ accepte de devenir comme le dernier des esclaves. Il va subir d'ailleurs le supplice des esclaves. C'est la deuxième transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Troisième transfiguration, par sa résurrection. Alors là, c'est le contraire. Là, il fut couronné de gloire et d'honneur. Transfiguration se manifeste aussi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il ressort glorieusement, glorieux du tombeau, la pierre est roulée par l'ange. Notre Seigneur Jésus-Christ sort du tombeau et toute la gloire de sa divinité. Ça, c'est aussi une transfiguration. Et les pères parlent d'une quatrième transfiguration, dans laquelle, par la Sainte Eucharistie, il se cache sous la forme du pain et du vin, semblant être transfiguré en eux. Car la transsubstantiation est une sorte de transfiguration des accidents. Donc, dans la Sainte Eucharistie, mystiquement, et même physiquement, mais on ne le voit pas, il y a une transfiguration, dans le sens que ce pain, parce qu'au début ce n'est que du pain, c'est la substance du pain, substance du vin, eh bien ce pain et ce vin vont changer de substance. C'est la transsubstantiation par laquelle la substance va totalement changer. La substance du pain va disparaître pour devenir la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et la substance du vin va disparaître pour devenir la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si les accidents demeurent. Et donc c'est un symbole de transfiguration. Je pense qu'il faut méditer sur ces 4 transfigurations, l'incarnation, la croix, la résurrection, la Sainte Eucharistie. Et nous aussi passer par ces 4 transfigurations. Par exemple, lorsque je suis baptisé, eh bien, il se passe en mon âme un peu ce qui s'est passé dans le mystère de l'incarnation. Lorsque je suis baptisé, que je reçois le sacrement de baptême, je deviens enfant de Dieu, le péché originel est ôté de mon âme, et par ce baptême, mon âme est tout illuminée et devient brillante comme une lumière dans une lanterne. Encore une fois, on voit rien extérieurement, mais cet enfant qu'on vient de baptiser de temple du démon qu'il était devient temple du Saint-Esprit. Donc la première transfiguration de l'incarnation représente le baptême. La deuxième transfiguration, celle sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ est écrasé sur la croix, mais représente le malheur du péché mortel. Lorsque je commets un péché mortel, bien j'écrabouille notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, littéralement, à coups de marteau. Je prends le marteau des mains des bourreaux pendant la passion et je frappe sur les coups à la place des bourreaux en disant « c'est pas ce que vous faites, je vais faire mieux que vous ». La troisième transfiguration, c'est celle de la résurrection, je vous ai expliqué. Et ça, c'est le symbole du retour à la grâce par la confession. Par la confession, on retrouve un couronnement de gloire et d'honneur parce que justement, on retrouve l'amitié du bon Dieu. Vous voyez, donc on peut méditer là-dessus. Et n'oublions pas que lorsqu'une âme est en état de grâce de façon habituelle, elle a la grâce qu'on appelle justement la grâce habituelle, la grâce sanctifiante en elle, c'est un peu la manifestation de la Sainte Eucharistie, de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ reste présent dans le tabernacle à l'intérieur du ciboire, sous l'apparence du pain, alors que c'est dans les hosties consacrées, il y a vraiment notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est là dans le tabernacle de l'autel. Il est là en permanence. Donc moi, à chaque fois que je veux faire une prière devant le tabernacle de mon petit oratoire, ici, là où j'habite, à Padiès, eh bien, c'est comme s'il y avait le bon Dieu. C'est comme, pardon, le bon Dieu est là. C'est comme si je rentrais au paradis. Donc vraiment, j'ai mis des paravents pour séparer un peu la partie chapelle du reste de la maison, parce que c'est une seule grande pièce que j'ai utilisée pour faire la chapelle. Mais quand je rentre dans la chapelle, j'écarte le paravent, je rentre dans la chapelle, je fais ma génuflexion, je suis au paradis, littéralement. Et tant que mon âme est en état de grâce, que j'ai le bonheur de rester en état de grâce, eh bien, mon âme est un petit bout de paradis. L'âme d'une personne qui vit en état de grâce, c'est le paradis dans notre âme. Voilà ce qu'il faut comprendre. Malheureusement, lorsque je commets un péché mortel, c'est plus le paradis que je représente, c'est l'enfer. Alors le Père parle aussi de la transfiguration de l'âme qui est représentée par la prière. C'est au milieu de la page 11 sur le polycopie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur ce passage de la transfiguration en Matthieu chapitre 17. La prière est une transfiguration de l'âme, disent les Pères. L'âme y reçoit une lumière de Dieu qui lui fait connaître plus clairement à la fois Dieu et elle-même. Parce qu'on voit à ce moment-là tout dans l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, quand on prie, on reçoit une lumière spéciale du bon Dieu, et du coup, on voit notre âme telle que le bon Dieu la voit elle-même. C'est comme si on se regardait dans une glace spirituelle. Donc l'âme cherche et obtient la grâce d'enlever les taches et les vices qui la déformaient. Elle en reçoit les consolations, les désolations. De faible qu'elle était, elle devient forte. De paresseuse, elle devient fervente. De perplexe, elle obtient l'intelligence. De triste, elle est faite joyeuse. Et de timide, elle est faite courageuse. C'est toute la transformation de l'âme qui retrouve l'état de grâce par une bonne confession ou tout simplement un acte de charité parfaite. Donc c'est le rôle de la prière, le but de la prière, transfigurer l'âme, transformer l'âme pour que l'âme reçoive la lumière de Dieu et reçoive la grâce d'enlever toutes les tâches et tous les vices qu'il a déformés auparavant. La prière aussi, nous disent les pères, vont permettre d'élever l'âme au-dessus d'elle-même, vers Dieu, vers le ciel, où elle apprend et voit que toutes les choses de la terre sont fragiles et vaines. Et de cet aimable auteur, elle les considère comme des babioles pour enfants. Elle perçoit que les vraies richesses, les vrais honneurs et les vrais plaisirs ne sont ailleurs qu'au ciel. C'est saint Paul qui considérait toutes les choses du monde comme, en latin on dit stercora, ça veut dire la poubelle littéralement, le fumier. Les choses du monde moderne sont du fumier pour Dieu. Et malheureusement, il faut bien avouer que les choses de Dieu pour le monde moderne sont du fumier, parce que le monde moderne est incapable de voir la beauté justement des choses de Dieu, parce qu'elle est tellement plongée dans la laideur qu'elle ne voit même plus, elle est tellement plongée dans l'obscurité qu'elle est incapable de voir la lumière. Quatrième point, d'après les pères, qui montre encore une fois que la prière est une transformation de l'âme, c'est que l'âme s'unit à Dieu par la prière, car celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Saint François, quand il priait, était élevé de terre et ne pouvait parler, penser, aimer rien d'autre que Dieu. Et il disait, mon Seigneur est mon tout, accordez-moi au Seigneur de mourir par amour de votre amour, vous qui avez daigné mourir par amour de mon amour. Et saint Paul disait la même chose, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur avec le visage découvert, nous sommes transformés en la même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. Et il faut comprendre, mes bien chers frères, en méditant sur ce passage de la Transfiguration, comprendre la beauté de l'Église catholique et la grandeur d'une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce qui se promène dans une grande ville, c'est un soleil dans la ville. Imaginez un énorme lac de boue, de lac de fumier, une espèce de gigantesque égout, et au milieu de cet égout, un diamant qui brille de tous ses feux. C'est l'âme en état de grâce. Et vous savez, les gens modernes se rendent très bien compte de ces choses-là. Ils savent que les catholiques qui vivent en état de grâce est différent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Le monde moderne ne sait faire qu'une seule chose, salir. Il ne sait pas embellir quoi que ce soit. Il en est incapable, parce qu'il n'est pas capable de donner ce qu'il n'a pas. Comme le monde moderne n'a pas de beauté en lui, il est incapable d'embellir quoi que ce soit. La seule chose qu'il sait faire, c'est salir les choses. Et donc, lorsqu'un catholique voit le monde, il n'y a qu'un désir, c'est d'embellir ce monde. Lorsque le monde, au contraire, voit quelque chose de catholique, qui n'a qu'un seul désir, c'est d'enlaidir la personne catholique qui est devant lui. Le corrompt par tous les moyens pour que justement cette âme soit incapable d'être éliminée par Dieu. On le voit très bien aujourd'hui, surtout par rapport aux enfants. Toutes ces lois immondes qui passent, les lois du genre, toutes les horreurs des invertis sexuels. Ils se promènent partout dans le monde moderne. Donc un but, salir l'âme. Salir l'âme, en quelque sorte, enlaidir l'âme d'une telle façon qu'elle ne soit plus capable de remonter vers le bon Dieu. Et pourtant, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Simplement savoir se mettre à genoux devant Dieu et de dire « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. » peut transformer une âme qui vit dans le péché jusqu'au cou, d'un seul coup, en une rose de toute beauté. Le bon Dieu, par sa grâce, peut transformer en une seule seconde un loup féroce en un agneau. On le voit très bien avec la conversion de saint Paul. Saint Paul qui ne vocifère que contre les catholiques, qui sur le chemin de Damas, notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, le fait tomber de son cheval, le rend aveugle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il faut méditer ces choses-là. Saint Marc indique que le Christ n'était pas assis ou agenouillé, mais se tenait debout sur ses pieds quand il fut transfiguré. Quand les apôtres se réveillèrent, ils contemplèrent sa gloire, les deux hommes qui étaient debout avec lui, Élie et Moïse. Donc, tropologiquement, moralement, les vêtements du Christ, qui sont blancs comme la neige, les vêtements du Christ représentent les saints qui l'ornent comme des vêtements, comme la neige. Ils sont chastes et brillent par leur pureté. Le blanc a toujours été le symbole de la vertu de pureté. Moïse était le législateur de la loi ancienne, Élie, le prince des prophètes. Donc ils apparurent tous les deux pour montrer que le Christ était le vrai Messie, le sauveur du monde annoncé par la loi et les prophètes. C'est pour ça que notre Seigneur se place entre la loi et les prophètes, donc entre la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie. Par Moïse, on montre que la loi se termine avec le Christ et la prophétie par Élie. Tous les deux ont rempli leur fonction et ont laissé la place au Christ comme le nouveau législateur et prophète envoyé par Dieu et promis par tous les prophètes, mais surtout par Moïse. Par ses paroles, le Seigneur votre Dieu suscitera un prophète du milieu de leurs frères, tel que vous, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Demandons ce que le bon Dieu mette aussi ses paroles dans notre bouche. Que tout ce que nous fassions, que tout ce que nous vivons soit fait, soit vécu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en bas de la page 11, il y a un texte de saint Thomas d'Aquin, donc la tertio pars, question 45, article 3. On n'a pas encore vu ça dans les cours que je donne sur la somme théologique de saint Thomas, puisqu'on vient à peine de commencer la tertio pars. Donc, il donne d'autres raisons de la transfiguration. Il en donne 6. Donc, en page 11, en bas, et en page 12. Donc, je vous lis ce texte. La multitude. Donc, les 6 raisons de la transfiguration. Première raison, la multitude affirmant que le Christ était Élie ou Jérémie ou un des prophètes. Il prit avec lui le chef des prophètes pour pouvoir bien établir la différence entre le maître et les serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ est dans une position d'honneur par rapport à Élie et Jérémie, ou Élie et Moïse, pour bien montrer qu'il est le maître entouré par ses serviteurs. Élie et Moïse sont là pour amener à notre Seigneur Jésus-Christ, annoncer notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Moïse, deuxième raison, Moïse donna la loi. Élie fut jaloux pour la gloire de Dieu. En apparaissant avec le Christ, il détruisait la calomnie des Juifs qui prétendaient que le Christ était un blasphémateur de la loi et qu'il usurpait pour lui-même la gloire de Dieu. Donc là, la transfiguration rétablit la hiérarchie des valeurs. Élie et Moïse sont sous notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième raison, il montra qu'il avait le pouvoir sur la vie et la mort, jugeant les vivants et les morts. C'est pour cela qu'il apparut avec Moïse qui était mort et Élie qui était encore vivant. Vous savez qu'Élie est monté dans un lieu, on ne sait pas exactement où il est, il reviendra à la fin des temps pour juger, se battre d'abord contre l'antéchrist, pour préparer la fin des temps, la fin du monde. Le Christ, quatrième raison, il parla de sa passion et de sa mort pour renforcer l'esprit de ses disciples et leur donna l'exemple de ceux qui s'étaient exposés à la mort pour défendre l'honneur de Dieu. Donc Moïse se présenta devant le Pharaon au péril de sa vie et Élie fit de même devant Ahab. Cinquième raison, page 12, au haut de la page. Donc il voulait aussi inciter ses disciples à imiter la douceur de Moïse et le zèle d'Élie pour les âmes. Et enfin, sixième point, il montrait qu'il avait été annoncé par la loi, par les prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ est la continuation donc de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui amène au Nouveau Testament. Oui. Donc il ne faut pas oublier que toutes les cérémonies de l'Ancien Testament sont devenues aujourd'hui mortifères précisément parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et au moment où il est ressuscité, au moment où il est mort plus exactement, eh bien, le rideau du temps va se déchirer en deux pour bien montrer qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Donc les gens qui disent qu'on peut toujours vénérer Dieu, adorer Dieu par l'Ancien Testament, par les cérémonies juives et la religion juive, disent une hérésie. La religion juive était la véritable religion jusqu'à notre Seigneur, mais depuis notre Seigneur Jésus-Christ, justement notre Seigneur Jésus-Christ a clos l'ancienne alliance et maintenant la nouvelle alliance. Et donc le seul moyen de salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les juifs qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne croient pas que notre Seigneur Jésus-Christ soit venu il y a 2000 ans pour en prendre chair parmi nous, comme fils de notre Sainte Vierge Marie, eh bien, ils attendent toujours la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ qui est venu il y a 2000 ans, est un imposteur. Donc Pierre avait reconnu les deux anciens, c'est-à-dire Élie et Moïse, qui apparaissaient avec le Seigneur à cause de leur habillement. Élie fut reconnu par sa ceinture de cuir, par son habit en peau de brebis, et Moïse par les cornes de feu qu'il avait sur le crâne, sur le front, cornes de feu qu'il avait eues en redescendant du mont Sinaï, après avoir vu Dieu et reçu les tables de la loi. Selon Origène, Moïse apparut avec les tables de la loi et Élie avec un chariot de feu. Parce que la Sainte Écriture nous dit qu'Élie est monté dans un lieu que Dieu seul connaît, sur un chariot de feu. Saint-Pierre voulait avoir la gloire avant les travaux, une couronne avant le combat, la joie avant la croix, alors qu'il appartenait au Christ d'abord de souffrir puis d'entrer dans la gloire. Mais la croix est le chemin et l'échelle qui conduisent au bonheur. Vous voyez ? Donc, les apôtres n'ont pas encore compris ça. C'est pour ça qu'ils disent tout de suite, il est bon pour nous d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 ans, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Ils n'ont pas compris que cette transfiguration qui monte à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est une transfiguration qui ne va pas durer. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, met du sucre sur la langue pour les aider un petit peu à progresser, mais il faut passer par la croix d'abord. Et vouloir aller au ciel sans passer par la croix, ben c'est le meilleur moyen de se tromper de route. C'est ça, c'est l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, quand on me demande quelle est la différence substantielle entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, je réponds toujours la même chose. L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique sans moins la croix. Et donc il faut demander justement cette grâce. Cette grâce de la compréhension de la nécessité de la croix pour aller au ciel. La croix, c'est la porte, la clé qui ouvre la porte du paradis. Pas de croix, pas de porte ouverte. Donc la croix est le chemin et l'échelle qui conduisent au bonheur. Donc il ne faut pas oublier que la transfiguration a pour but, on l'a déjà vu auparavant, la transfiguration a pour but d'aider pour prévenir les apôtres afin qu'ils ne perdent pas confiance, disent les pères, quand ils les contempleraient cloués sur la croix. Donc le but de la transformation, c'est de donner courage aux apôtres pour qu'ils ne paniquent pas quand la croix leur sera donnée. Le but de la transfiguration, c'est donc d'aider les apôtres à comprendre que c'est par la croix qu'on va au ciel. Il n'y a pas de possibilité, on ne peut pas aller au ciel sans croix, c'est pas possible. Les pères disent que Saint-Pierre plaçait son bonheur dans la vue de l'humanité glorifiée de Dieu et non dans la vision de sa divinité. Qu'est-ce qu'aurait dit Pierre s'il avait contemplé la gloire de la divinité, l'abîme de toute joie et tout bonheur? Les apôtres n'ont pas encore tout compris. Car cette vision, ce plaisir de Pierre fut sensible et corporel. Alors qu'il n'était qu'une simple petite miette ou une goutte d'eau en comparaison avec la joie et le plaisir ressenti par la contemplation de Dieu une fois immergé en lui comme dans un océan de plaisir. Donc la transfiguration ne montre qu'une toute petite parcelle, un petit confetti si vous voulez, de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est infiniment plus grande que celle qui est manifestée à la transfiguration. Pourtant la transfiguration, les apôtres sont déjà dans tous leurs états. Et il est bon pour nous d'être ici, il va rester. Mais bien chers frères, lorsque vous êtes devant le Saint-Sacrement, la Sainte Messe, lorsque vous êtes devant le Saint-Sacrement, ben, il faut comprendre que ben, vous êtes comme au tabord. D'abord, c'est ça. Le tabord, c'est l'autel. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'exposition du Saint-Sacrement, on place le Saint-Sacrement sur un petit trône. Et on appelle ce trône le tabord, justement. Un tabord, pourquoi ? T-H-A-B-O-R. Parce que ce tabord représente justement la transfiguration. Et donc, lorsque je rentre dans la chapelle, je fais la génuflexion, je suis au tabord. Je suis avec les apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Jean. Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, je suis au sommet du tabord, jouissant de la divinité de notre Seigneur. D'ailleurs, Jésus-Christ, il faut pouvoir dire exactement la même chose qu'a dit, même chose qui ont été prononcées par Saint-Pierre, il est bon pour nous d'être ici. Il faut aimer être devant le Saint-Sacrement. Malheur aux catholiques qui n'aiment pas être devant le Saint-Sacrement. C'est triste parfois de voir des catholiques qui assistent à la messe et ils pensent qu'une seule chose, c'est ressortir le plus vite possible. Puis si on a le malheur de faire un sermon qui dépasse 20 minutes, on commence à les voir bailler au carnet et regarder leur montre pour bien le faire comprendre. Monsieur l'abbé, ça fait un peu long quand même. Il y a des choses bien plus importantes à faire après la messe. Triste aussi de voir parfois des gens après la Sainte Messe, donc ils sont en train de papoter dehors sur le parvis de l'église et puis ils n'ont même pas le temps de passer un temps d'action de grâce après avoir reçu la Sainte Communion. Donc attention à ça. Le Christ était transfiguré non en recevant ce qu'il n'avait pas, mais en laissant apparaître ce qui était au-dedans. Et en signe que les apôtres sont vraiment possédés par cet esprit d'adoration et tombent sur leur face, dit Rémi d'Auxerre, tandis que les impies devant Dieu tombent en arrière. Vous voyez, les apôtres, les pères ont remarqué les différences. L'agonie au jardin des Oliviers, lorsque Judas vient pour trahir son maître, il est avec toute une foule, dit l'Évangile. Il y a des juifs, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des soldats romains, et notre Seigneur Jésus-Christ les regarde droit dans les yeux et leur dit « Qui cherchez-vous ?» Et ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et notre Seigneur Jésus-Christ ne dit que deux mots, « Ego sum, c'est moi ». Et quand il dit « c'est moi », tous tombent par terre. Tous tombent en arrière, justement. L'Évangile fait bien marquer qu'ils tombent en arrière, et complètement une espèce de collapse général, si vous voulez, de presque d'évanouissement général de tout ce monde-là. Ils tombent au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, ils tombent en arrière, justement, en quelque sorte, complètement... détruit littéralement par la grandeur de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, de contempler ces gens en révolte contre lui, et qu'il pourrait éliminer d'un seul mot, il pourrait demander à un ange de venir et exterminer tous ces gens-là. Alors qu'au contraire, à la transfiguration, les pères font remarquer que la transfiguration, ils tombent pas, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean ne vont pas tomber en arrière. Au contraire, ils tombent sur leur face. Alors que les impies, au jardin des Oliviers, tombe devant Dieu en arrière. Alors, tombons du bon côté. Demandons, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu, justement, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Relisez ces phrases magnifiques de la transfiguration. Il faut que vous puissiez vraiment dire à chaque fois que vous êtes devant le bon Dieu à la chapelle, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Quel dommage, je dis encore une fois, de voir parfois des gens qui disent « Quelle déveine, si ce dimanche matin aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir dormir, il faut que j'aille à la messe. » Ils viennent à la messe comme avec des souliers de plomb, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la messe. Imaginez qu'on vous dise ben « Venez, vous êtes invité dans un magasin, on vous offre un lingot d'or gratuitement si vous venez au magasin. » Tout le monde se précipiterait. Mais là, c'est plus qu'un lingot d'or qu'on soit à la Sainte Messe, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait dire par son ange, venez, je suis là avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, venez, je vous attends sur l'autel. Alors on se lève vite du lit, on se prépare et on va vite à la messe parce que justement, on va retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints étaient comme ça. Leur joie, c'était d'assister à la Sainte Messe. Comme il est important, mes bien chers frères, de comprendre toutes ces choses-là qui sont malheureusement... pas toujours construites, comprises. Donc je vous demande, je vous conseille de relire encore une fois après votre cours, après avoir entendu ce cours sur Internet, de relire sur le polycopié page 8, 9, 10, 11 et en haut de la page 12. Les commentaires des pères, encore, mettez-vous dans la tête que je n'ai mis qu'une toute petite partie du commentaire des pères. On n'a pas complètement terminé, il reste la deuxième partie du texte sur la transfiguration. Je vous le lis pour faire le lien avec le prochain cours. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit. Et voici qu'une voix sortit de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Et les disciples entendant tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit, levez-vous et ne craignez point. Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Et lorsqu'ils descendaient de la montagne du Tabor, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc, nous expliquerons la prochaine fois, justement, cette manifestation de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, et puis la première personne de la Sainte Trinité qui va se manifester en parlant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes les complaisances, écoutons-le. Donc méditons sur la transfiguration pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ et comprendre l'importance justement d'être avec les apôtres au sommet du Tabor pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe pendant la messe. Encore une fois, l'autel c'est le Tabor. Donc il faut être au pied du Tabor. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.